RMC, face aux grandes gueules.
Il est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, directeur du journal L'Humanité. Monsieur le sénateur Fabien Gay, bonjour.
Bonjour.
Finalement, vous êtes de droite, Fabien Gay?
Non, je... Oh, ça commence.
Mais non, mais parce que.
Je suis content de vous voir.
Tu t'appelles pas Fabien droite.
Non, mais parce que j'ai vu que les locaux de votre journal L'Humanité étaient climatisés.
Oui. Bon, beaucoup de locaux qui nous appartiennent pas d'ailleurs.
Pour les gens de gauche, la clim, c'est un truc de droite, voire d'extrême droite.
Le communisme croit au progrès technique.
Non, mais
le communisme croit au progrès technique.
Vous confirmez que c'est climatisé chez vous?
Oui, on a fait, enfin, le, on loue, on est locataire, pour que vous sachiez tout. On a renégocié notre loyer, si ça vous intéresse, en octobre dernier. On paye 680 000 euros à l'année, comme ça je suis assez transparent. Il y a eu donc des travaux qui ont été faits et donc la climatisation a été installée. D'ailleurs, il n'y a pas que L'Humanité dans ces locaux, il y a une cinquantaine d'entreprises partout. Donc
pour travailler, c'est quand même mieux la clim.
Et évidemment, personne n'a dit le contraire. Et ici, sur ce plateau, on est climatisé.
Non, pourquoi nos enfants en ce moment, pour la plupart, sont dans des écoles surchauffées? Pourquoi nos petits vieux sont soignés dans des hôpitaux surchauffés? Comment ça se fait qu'en 2026, on accepte ça?
Alors, la vraie question est, bien sûr, que il vaut mieux climatiser les choses. Et je suis d'accord avec vous, je vous ai entendu avant de rentrer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut fermer les écoles, parce que je viens d'une ville populaire, le Blanc-Mesnil, je vous l'ai souvent dit. Et vous savez, les classes populaires vivent dans les logements très mal isolés. Donc, l'hiver, ils ont très froid et l'été, extrêmement chaud. Et donc, évidemment, il vaut mieux aller à l'école, dans des îlots de fraîcheur, de végétalisation, et évidemment accueillir l'ensemble des enfants de la République. Oui, nous avons un retard sur la climatisation, et il faut le faire.
Est-ce que c'est à cause de la gauche?
Bon, arrêtez avec ça, la gauche, là. C'est pas le débat.
Si, parce que, pardon.
Pourquoi la gauche?
C'est la gauche. Comme c'est Marine Le Pen qui proposait un plan clim,
c'est la gauche qui dirige le pays crédisant. Bon. Donc, mettons ça, arrêtez, 30 secondes. Ne faites pas de la politique politicienne,
quand même,
ça vous ressemble pas. Peut-être un peu trop. Donc sérieusement, donc il faut un plan de climatisation évidemment, mais au-delà de ça, évidemment pour les écoles, pour les EHPAD, mais au-delà de ça, il faut changer le système. La question, c'est l'accès à un droit, évidemment à la fraîcheur, qu'on ait des îlots de végétalisation. C'est tout ça qu'il faut. Et on a un gouvernement, pardon, je le dis, qui nous explique sur les plateaux de télévision, faut bien s'hydrater, faut de la climatisation, mais qui a coupé le fonds vert, qui permet aux collectivités territoriales, notamment de végétaliser les cours d'école ou les bâtiments publics. Et là, on a une vraie question. C'est qu'on était à 2,5 milliards, on est passé à 850 millions, et donc ce gouvernement, en réalité, n'agit pas concrètement sur la question du réchauffement climatique. Et donc les collectivités, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles investissent beaucoup pour végétaliser.
Le Cornu dit l'inverse. Le Cornu dit c'est les collectivités qui font pas le boulot.
Bien sûr.
Fait le boulot.
Bien sûr. Bah oui. Parce que en ayant
divisé. Chacun se renvoie la patate chaude.
En ayant divisé.
Pas de politique politicienne, vous en faites aussi.
En ayant divisé. Ben, pardon, c'est les faits.
Chacun se renvoie.
Pardon, vous êtes journaliste.
Oui.
Donc les faits.
Oui.
Rien que les faits.
Oui.
Donc.
C'est vrai que le fonds vert a été divisé.
Est-ce que le fonds vert a été divisé par trois, oui ou non?
Il n'y avait pas la clim dans le fonds vert. Donc ça
non, je vous ai pas dit la clim. Je vous dis végétaliser un certain nombre de bâtiments. On a besoin aux côtés de la climatisation. Parce que la climatisation, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga.
Et quand il fait
évidemment,
40,
ça réchauffe.
Des arbres supplémentaires,
évidemment,
ça
la question du béton. Aujourd'hui, nos villes ne sont pas adaptées. Et donc, si tout le monde est climatisé, c'est plus
mais
si
villes sont, la plupart des villes sont dirigées par la gauche, Fabien Gay.
Mais si. Mais arrêtez avec. Vous êtes dans un débat.
Non, mais Fabien Gay, pardon.
Allez-y.
La plupart des grandes villes de France sont dirigées par la gauche depuis des années. Donc, Paris, ça fait 25 ans qu'il y a une alliance entre les socialistes et les écologistes. On peut pas.
Et les communistes.
On peut pas arriver, comme l'a fait Monsieur Grégoire ce matin, et on a l'impression qu'il découvrait qu'il allait avoir des vagues de chaleur, alors que ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir.
Personne ne le découvre, puisque les faits le montrent, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 2010, nous avons vécu 25 épisodes de canicule, d'accord, sur 65 ans. En 15 ans, nous avons vécu 25 épisodes. Donc, c'est en train de se rapprocher. Donc, c'est une question fondamentale.
Analyse.
Un d'adaptation. Donc, la climatisation, elle peut être une question d'adaptation. Mais au-delà de ça, il faut changer le système. D'accord? Vous entendez ça? Il faut revégétaliser. Il faut arrêter de bétonner. Il faut un accès au droit, évidemment, à la fraîcheur. Que par exemple, lorsqu'il y a des épisodes de canicule comme nous le vivons, que tous les bâtiments publics qui accueillent de la climatisation soient ouverts au plus grand nombre. Vous voyez? Il faut réfléchir en ce sens-là et changer. Et je vais pas vous faire plaisir, mais je vais le dire quand même. Changer le système capitaliste, le dépasser, parce qu'il est un des éléments du réchauffement climatique, nous le savons aujourd'hui. Donc, c'est un travail au long cours, donc vous pouvez faire de la climatisation, et il le faut partout où nous le pouvons, notamment pour les personnes âgées et pour les enfants, mais
monsieur,
aussi...
Monsieur le sénateur... Moi,
merci de m'avoir laissé dire un mot.
C'est très beau.
Allez-y, monsieur Charles de Consigny.
Non, mais simplement...
Charles de Consigny.
Pourquoi
Charles
vous l'annoncez à chaque fois
que
vous lui mettez
un petit parce qu'il trouve qu'il a un air noble.
Ah, c'est gentil. C'est aussi son inconscient, il souhaite m'envoyer au goulag.
Oh, donc il peut couper la tête, plutôt.
Il prépare... Vous êtes en forme, hein. La canicule vous a pas... Ouais, je vois que vous êtes en forme.
Je serais comme les Russes blancs exilés, bon.
Allez. Un chauffeur de taxi à Nice.
Exactement. Mais pourquoi pas d'ailleurs?
Traqué par le KGB.
M'en fous.
Bon, allez, soyons sérieux, posez votre question.
La gauche française se berce d'illusions en disant oui, il faut changer le système capitaliste.
C'est à cause du capitalisme.
Donc moi, je veux bien. Très bien. Faisons un système vraiment d'inspiration socialiste totale en France. Enfin, total. On arrête les avions. On collectivise le logement, on chronomètre les douches, on généralise les toilettes sèches, on fait un truc, mais total. Est-ce que ça va changer de 0,00000001% la situation climatique mondiale? Mais rien, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que les Chinois vont continuer comme ils font en ce moment, les Américains vont continuer, les Indiens vont continuer, les Brésiliens vont continuer, le reste de l'Europe va continuer, l'Afrique va continuer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dites faut changer le système capitaliste, c'est mignon presque, c'est touchant, mais ça n'est pas du tout être pragmatique.
Je vous remercie, d'accord. Alors, la question, et je ne crois pas que vous soyez climato-sceptique.
Non, science, pas du tout, bon, pas du tout.
Je ne vous accuse pas. Je vous dis, je ne crois pas que vous soyez climato-sceptique.
Donc, c'est difficile de l'être, là.
C'est difficile de l'être, et je vous en remercie. Il en existe, vous en conviendrez, y compris en France.
Oui.
Vous en conviendrez.
C'est comme les poissons volants, ça existe, on ne pensait pas la majorité
Donald Trump,
d'espèces.
Par exemple, président des États-Unis.
Oui, mais c'est ça, ne pas être climato-sceptique, mais adorer alors, Trump, est-ce que c'est ne pas être climato-sceptique?
Non, donc ça existe.
Pour d'autres
donc
raisons.
La science nous dit quoi? Par exemple, depuis les accords de Paris, il y a plus de 10 ans, si nous ne laissons pas 80% des énergies fossiles dans le sol à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Consigny, vous aurez, en réalité, vous dépasserez les 1,5% du réchauffement climatique. 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc, ça nous impose, au global, en France comme partout dans le monde, que nous prenions conscience de ça, et donc de changer nos modes de consommation, de production, de transport, y compris en France, où nous avons un mix électrique qui dépasse 70%, évidemment, de l'énergie nucléaire, mais notre mix énergétique, il dépasse 60% des énergies fossiles. Donc, nous avons un défi d'avenir, c'est dans les 20 prochaines années, nous devons électrifier nos usages en France comme partout dans le monde et sortir des énergies fossiles. Donc ça, oui, c'est le système capitaliste qui continue à épuiser le vivant et la nature et qui veut continuer à épuiser, évidemment, et à puiser les ressources dans la Terre, alors qu'il nous faut faire tout l'inverse. Pardon de vous le dire, c'est un défi d'avenir et donc, évidemment, nous ne réussirons pas seuls en France, mais c'est un mouvement mondial. Et les COP devraient justement nous permettre de faire ça. Malheureusement, elles sont confisquées par une partie de l'élite. Aujourd'hui, les Américains, les Chinois qui sont dans une course à l'échalote. Et on sait qu'avec ça, nous allons droit dans le mur. Pardon de le dire, mais c'est une question d'avenir et nous devrions débattre de ça. Plutôt que savoir qui on va envoyer au goulag,
Jean-Louis Bonnet, intérêt.
Mais moi, je suis un peu surpris.
Allez-y.
Parce que il y a deux choses là quand vous parlez de cette histoire de sortir du système capitaliste.
Le dépasser.
De dépasser le système capitaliste. Premièrement, c'est que dans l'histoire du XXe siècle, les pays communistes ont été les plus gros pollueurs et justement pour des raisons de fond. Votre ami Staline se moquait de l'écologie. Il fallait construire des barrages, développer l'URSS.
Il est mort en quelle année, Staline?
En 53.
Et je suis né en quelle année?
Ça, vous êtes né en quelle année?
1984.
Oui, mais vous avez un héritage. Dans ce cas-là, il ne faut pas être membre du Parti communiste.
Ouais, je peux être ami avec M. Cruchot et Marshall, puisque nous nous connaissons. Mais difficile d'être ami avec quelqu'un qui est mort.
Ou votre ami Ceausescu.
Allez, soyons sérieux, revenons.
Mais je suis très sérieux, c'est-à-dire que dans l'histoire, le communisme n'est absolument pas une doctrine écologiste. Et les régimes qui se sont réclamés du communisme, regardez la Chine aujourd'hui. La Chine est dirigée par le PCC, le Parti communiste chinois. On peut dire que quand même, ça a quand même pas mal détonné. Bon. Et deuxièmement, j'aimerais que vous me citiez un seul pays dans le monde qui aujourd'hui pourrait vous servir d'exemple, qui a dépassé, comme vous dites, le système capitaliste. Moi, je suis toujours un peu surpris, j'entends ça, j'entends des Jean-Luc Mélenchon dire, se définir lui-même comme collectiviste, je vous entends dire qu'il faut dépasser le régime capitaliste. J'aimerais que vous me donniez des exemples de pays qui l'ont déjà fait et où ça marche.
Alors, là où vous avez raison, c'est que le XXe siècle, quels que soient les systèmes qui ont été mis en place...
Que Staline, ça n'a pas trop végétalisé.
Excusez-moi, vous avez raison. Vous avez raison sur une question, c'est que le XXe siècle, quels que soient les régimes en place et au cours de son histoire, et quels que soient les continents dans lesquels nous nous plaçons, n'ont pas mis l'écologie au centre. Ce n'était pas une question. Dans les années 50, il n'y avait pas que
l'URSS. Non, mais le communisme était très productiviste même.
Bien sûr, évidemment, parce qu'il fallait reconstruire le pays, notamment en France. C'est toute notre histoire. Mais personne ne parlait des questions écologiques. Non. Jaurès... puisque Julien...
Fondateur
de l'humanité, vous allez m'en parler dans quelques instants, ne parlait pas d'écologie, il est mort en 1914 et personne ne parlait évidemment d'écologie. Mais le grand défi du siècle aujourd'hui, et pardon de me définir comme ça, le grand défi du 21e siècle, il est sur deux points. Nous n'avons qu'une seule planète. Et si nous ne stoppons pas le cycle du réchauffement climatique, nous allons tous périr.
Vous êtes décroissant.
Et la deuxième question, attendez, j'en viens, c'est de sortir des millions, des dizaines, des centaines de millions de gens de la très grande pauvreté. Voilà. Donc, il y a une question, c'est qu'effectivement, sur la question de la production et de la consommation, nous le voyons, par exemple, il y a une accélération, je vais répondre à votre question, il y a une accélération des traités de libre-échange, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont climaticides, parce qu'on importe des produits dont on interdit aujourd'hui ici la production, c'est par exemple tous les traités avec le Mercosur sur la question de la viande, et on n'a pas intérêt à avoir des produits qui font trois fois le tour de la planète.
Donc, la pauvreté,
il vaut mieux produire et consommer local, ça c'est une véritable question, et peut-être qu'il faut s'interroger sur la question de quelle consommation, pourquoi faire. Évidemment, c'est des questions qu'il nous faut mettre évidemment sur la table.
Alors, quel pays peut vous servir de modèle, quel pays a dépassé le système capitaliste
aujourd'hui, aucun.
Aucun.
Mais bien sûr.
Une indication
mais c'est
quand
un
même.
Défi. Pardon. Mais c'est un défi d'avenir que nous avons à co-construire avec les peuples. Moi, je suis de celles et ceux qui refusent évidemment la mise en compétition et la mise en concurrence. Je suis pour la mise en commun parce que je pense que si tous les peuples du monde évidemment arrivent à partager les pouvoirs, les savoirs et les richesses, nous pouvons réussir, évidemment, le défi d'avenir.
Si tous les braves gars du monde se donnaient la main.
Ah ben, autrement, on peut continuer. Vous pouvez faire comme Monsieur Consigny, dire « Ah, c'est un peu bisounours ». Nous pouvons continuer dans le chemin qui est aujourd'hui tracé par un certain nombre de gouvernements, c'est-à-dire dans le mur. Et plus nous allons continuer dans le système dans lequel nous allons, plus
voyez,
nous allons dans le...
C'est ça le problème du communisme, c'est que le communisme a longtemps eu un modèle de référence à l'étranger, la grande lueur à l'Est, comme disait Romain Rolland, et qu'aujourd'hui vous n'avez plus de modèle et que ce que vous proposez n'a été tenté par personne dans le monde.
Non, c'est
le problème, vous n'avez
non,
pas...
Non,
parce
non,
que personne
ne
veut le tenter.
Il y a des expériences qui se font, notamment...
au Chiapas.
Non, mais arrêtez de caricaturer. Il y a des choses qui se font au niveau local. Il y a des gouvernements qui s'interrogent, notamment en Amérique latine. Mais c'est une prise de conscience mondiale qu'il nous faut. Moi, si vous me dites, écoutez, tout va bien dans le système tel que nous vivons aujourd'hui. Tout va bien. Il y a des millions de pauvres en France parce que le système est généré et nous vivons.
On n'a pas trouvé de meilleur. Et notamment, même la Chine communiste a découvert les vertus du capitalisme. C'est comme ça d'ailleurs que les Chinois sont sortis de la pauvreté.
Mais ils avaient un défi considérable, c'est de sortir 1 milliard d'êtres humains de la situation de très grande pauvreté
qui avait été plongée par Mao d'ailleurs.
En l'espace de 20 ans.
Qui avait été plongé par Mao.
Pour revenir à un sujet, je ne suis pas un admirateur du système chinois. Mais si c'est ça que vous voulez. Pour
revenir à des sujets concrets, par exemple, est-ce que vous êtes pour le congé climatique que propose Marine Tondelier?
Alors, moi, j'ai pas entendu le congé climatique. Par contre, je vous ai entendu avant de rentrer. Je pense que pour les métiers extérieurs, les ouvriers du bâtiment, par exemple, Je pense que nous devrions nous poser la question législative qu'à un certain niveau de température, est-ce que c'est 35, 36, 38, j'en sais rien, il faudrait le définir ensemble, il ne faudrait plus pouvoir travailler en extérieur. Vous avez vu, il y a des gens qui, il y a un ouvrier, un jeune ouvrier de 19 ans, un couvreur, qui est mort, évidemment, parce que toute la journée, il a été mis au soleil sur un trottoir. Donc là, je pense que nous devrions nous poser cette question.
Mais
je
vois déjà qu'un cadre législatif.
Qu'un certain nombre d'employeurs mettent un certain nombre de salariés en télétravail lorsque c'est possible, évidemment.
Vous restez avec nous, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay. Question dans un instant de Flora Guebali. À tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec le sénateur communiste Fabien Gay. Il est aussi directeur du journal L'Humanité. Question de Flora Guebali qui est avec nous aujourd'hui.
Vous dites que les deux enjeux du siècle, c'est le climat et les inégalités et la pauvreté. J'ai entendu Jeff Bezos cette semaine dire qu'il fallait priver certains humains d'eau douce pour les besoins de l'intelligence artificielle. Mais de manière très premier degré. C'est quoi pour vous la réponse politique de la France à ça ? Ça devrait être quoi la réponse politique de la France ?
À Jeff Bezos ou à la question de l'eau ?
À ces géants du numérique qui privatisent les ressources et petit à petit et qui disent tranquillement qu'il va falloir priver les humains d'eau douce pour les besoins de l'intelligence artificielle.
Donc, je vous rassure, je vous réponds d'abord sur Jeff Bezos, je suis en désaccord avec lui. Je crois que personne ne pensera le contraire. Non, on a une vraie question autour du numérique, hein, qui est une nouvelle frontière de l'humanité, comme l'espace, comme la mer. Aujourd'hui, elle est dans nos vies. L'intelligence artificielle est déjà dans nos métiers. On parlait des éditeurs de presse, mais évidemment dans la santé, dans un certain nombre de domaines, l'intelligence artificielle, en réalité, est déjà là et elle va se développer. Il y a besoin d'avoir une souveraineté numérique en France ou au sein de l'Union européenne. Par exemple, conserver nos données, nos data, est une vraie question. Aujourd'hui, on dépend beaucoup des Américains et des Chinois, donc il y a une vraie question autour du cloud européen. Et en réalité, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont leaders. Donc il y a une vraie question de conserver ça. Mais je suis aussi élu de territoire. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est l'installation de près d'une dizaine de data centers qui vont se faire. Par exemple, au Bourget ou dans une ville de Duny, pas loin de chez moi. Duny est une ville moyenne, 15-20 000 habitants. Il y a un gros data center qui va prendre quasiment le même nombre d'eau et d'électricité que les 20 000 populations. Donc là, on a une vraie question autour de ça. Donc il faut arriver à allier enjeux de souveraineté et de ne pas concentrer tous les data centers dans le même territoire. Alors, par exemple, nous, on a un territoire désindustrialisé et on nous propose que des data centers ou des entrepôts Amazon qui sont peu pourvoyeurs d'emplois. Et là aussi, il y aurait besoin de travailler sur ce système. Donc, il faut l'équilibrer sur les territoires. Et évidemment, enjeu de souveraineté numérique. Donc, c'est des enjeux assez complexes qu'il faut manier avec lucidité. Mais je ne suis évidemment pas pour tout laisser. Évidemment, soit aux Américains, soit aux Chinois.
D'accord, mais sauf qu'ils ont été meilleurs que nous.
Ah ben oui, ils vont plus vite.
Non mais moi, ma question... Attendez, c'est comment vous faites ? Parce que là, vous ne nous proposez pas... Enfin, vous faites un constat...
Non, je vous dis qu'il faut développer... Alors, peut-être... Pardon, je recommence.
Vous n'êtes pas pour tout laisser aux Chinois ou aux Américains, mais du coup...
Non, je suis pour qu'on développe des solutions françaises, européennes, qui existent déjà, et dont il faut continuer, évidemment... À investir dans cela. Et je vous le redis, il y a des entreprises françaises extrêmement fortes sur ces sujets d'enjeux numériques ou d'enjeux d'intelligence artificielle. Et après, sur le terrain, notamment sur les questions de data center, je ne suis pas pour mettre tout dans les mêmes territoires. Je suis pour qu'on l'harmonie
dans
l'ensemble du territoire métropolitain.
Vous tapez sur Amazon, c'est 25 000 emplois en CDI en France, 100 000 si on prend les emplois indirects. Moi, j'adore.
Oui, mais l'emprise.
Non, mais j'adore les responsables politiques français qui tapent sur l'emploi venu de l'étranger. Mais quels sont les emplois qu'on crée en France ? Quelles sont les grandes boîtes qu'on a créées en France ces dernières années ?
On n'a pas
créé Google, on n'a pas créé Amazon. Alors ça, en revanche, réguler, ça, les sénateurs, vous le faites beaucoup avec les députés, réguler, faire des normes, encadrer.
freiner, interdire, etc. Mais on préférait plutôt que innover, créer des emplois, créer des sites dans des régions effectivement défavorisées où s'installent des entreprises françaises. Ben non, c'est Amazon. Alors on peut ne pas aimer Amazon, mais je regardais les chiffres d'Amazon, c'est 7000 emplois supplémentaires CDI d'ici 2028. Voilà, ça c'est du concret.
Ouais. Emploi CDI extrêmement mal payé et je sais pas si vous avez déjà été
visité. En fonction publique, on est
vous avez déjà été visité un entrepôt Amazon et les conditions de travail, mais si vous voulez, on pourra y aller ensemble. Je vous ai déjà proposé une fois de venir à Saint-Denis, puisque vous commentez beaucoup Saint-Denis, vous avez pour l'instant dit oui, mais vous n'êtes pas venu, donc je vous repose.
On vient à Saint-Denis sans votre invitation, vous savez.
Ben, non, non,
mais il y a quelques stations de métro.
Bah, bon, très bien. Quand vous y avez été à Saint-Denis? Vous y avez été quand alors?
Là, récemment?
Oui.
Non, pas récemment. Ah, pas récemment. Pas depuis d'accord. que votre ami Bagayoko.
D'accord. Donc, mais donc, je vous réinvite. Voilà.
Avec plaisir.
Et je vous invite à venir avec moi dans un entrepôt Amazon. Vous allez voir les conditions de travail. Et en réalité, vous pouvez avoir des CDI à 10 heures par semaine. Oui. Donc, c'est pas un emploi à 35 heures payé au-dessus du SMIC. Donc, je le dis, évidemment, vous avez raison. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas créé une entreprise d'industrie de plus de 1000 salariés. Donc, on a une vraie question. Mais on pourrait le faire.
Mais on peut pas poser la question pourquoi?
Pourquoi?
Le mais coût pas... du travail, non, ça, oh, ça... Ah, non, pas le
on
coût
a,
du
on
travail.
On a le capitalisme le plus aidé du monde. 211 milliards d'aides publiques chaque année, sans condition, ni transparence, ni suivi, ni évaluation. Donc, on accompagne beaucoup, en réalité, les entreprises. Et une part de cet argent public, de ces 211 milliards, qui sont donc les impôts de l'ensemble des Françaises et des Français, partent en dividende. Donc là, il y a une vraie question. C'est d'abord de conditionner, évidemment, ces aides publiques.
Mais vous savez,
et par exemple,
aides,
sur l'aéronautique.
Vous savez que les aides, elles ne servent qu'à permettre aux entreprises.
Oui, de compenser. Je connais.
Non, de survivre au système fiscal et social français.
Oui,
s'il n'y avait pas ces aides.
C'est un enfer. C'est un enfer fiscal.
Excusez-moi.
Pour les grandes entreprises, un enfer fiscal.
Non, parce que
un certain nombre d'entreprises,
justement, les grandes entreprises, les grandes entreprises ont les moyens d'essayer de survivre à tout ça. Mais en revanche, tous ceux qui font vivre ce pays, et notamment, ne serait-ce que les jeunes entrepreneurs, les gens qui veulent créer des boîtes et tout, ils ont beaucoup de mal à le faire parce que l'État prend tout en France. Ben oui, je suis désolé de le dire.
Non. Une des vraies questions quand vous êtes un jeune entrepreneur, donc sortons des grandes entreprises.
Les indépendants, ils donnent tout leur argent à l'État. C'est comme ça.
Sortons des grandes entreprises qui se soustrait pour une majeure partie d'entre elles à l'imposition, ce qui devrait d'ailleurs vous scandaliser. Pour revenir donc aux jeunes entrepreneurs et aux TPE-PME, la vraie question lorsqu'on parle avec des jeunes entrepreneurs et celles et ceux qui créent 5 ou 6 emplois, qui ont une TPE probablement, la première des questions n'est pas l'enfer fiscal comme vous le décrivez ici. La première des questions, c'est l'accès au crédit pour pouvoir investir. Les banques ne prêtent pas ou elles prennent à des taux tellement élevés qu'en réalité, elles saignent les entrepreneurs. Première question, il faudrait donc que la BPI ou d'autres banques puissent prêter aux entrepreneurs. Deuxième question, lorsqu'on parle évidemment des jeunes entrepreneurs, c'est la question du loyer. Une vraie question, c'est de trouver un loyer et un loyer peu cher. Troisième question, c'est la question de la formation d'un certain nombre de salariés. Ils ne trouvent pas de salariés assez bien formé. Donc ça, c'est les trois questions majeures. Et arrive en cinquième position.
C'est pas que ça.
L'enfer fiscal.
Je sais pas d'où vous sortez.
Évidemment, parce que lorsqu'on est un jeune entrepreneur, vous savez combien il existe de dispositifs d'accompagnement pour aider les entreprises.
Mais ils n'en veulent pas.
Ils veulent pas de ça.
Mais je n'en veux pas de vos dispositifs d'accompagnement.
Donc il existe 2267 dispositifs.
On n'en veut pas.
Ils
n'en veulent pas. Quelqu'un qui crée une boîte.
C'est très loin de ce que vous imaginez.
Monsieur le sénateur, quelqu'un qui crée une boîte, il n'a pas du tout envie d'aller taper à la porte à Bercy pour avoir un putain de dispositif d'accompagnement. Excusez-moi. C'est juste que même pour prendre un stagiaire en France, c'est une usine à gaz. Même pour prendre un stagiaire, il faut remplir 400 000 formulaires, il faut le déclarer 400 000 fois, il faut verser cela. Mais si c'est une réalité, c'est une réalité.
J'en accueille une cinquantaine.
Demandez aux indépendants.
Mais ne me racontez pas de baratin.
Mais parce que vous avez des équipes qui s'occupent de ça.
Mais ne me racontez pas de baratin.
Demandez aux indépendants.
Vous en avez pris de stagiaires dans votre cabinet d'avocat.
J'en ai tout le temps des stagiaires. J'en ai tout le temps.
Et alors, vous remplissez combien de papiers?
On se tape les usines à gaz. Donc, excusez-moi. Et demandez à n'importe quel entrepreneur ce que c'est que pour lui l'URSSAF. Demandez-leur. Ah mais demandez-leur ce que
je
c'est.
Vous dis pas qu'il y a...
C'est un organisme qui brise leurs rêves, qui leur vole leur argent, qui les vole tout les simplement. Vole, c'est du vol
alors
aujourd'hui.
Alors c'est quoi le système
donc
que vous
ne
proposez.
Vous étonnez pas.
Quel est le système que vous proposez? 0%
ah bah,
d'impôt.
Moi je vous propose
rien.
Oui, je vous voilà. propose effectivement.
Chacun, je
propose
non, celles et ceux qui n'ont pas d'argent
avec plus de liberté
n'ont pas accès à la santé,
regardez,
n'ont pas accès
à l'éducation.
Monsieur le sénateur, laissez-moi excessif, je peux parler.
On n'est pas au comité central.
Bien sûr, allez.
On n'est pas au comité central.
Allez, la troisième vanne de la matinée.
Regardez, vous qui êtes patriote quand même, j'en suis sûr. Vous trouvez pas que c'est une humiliation?
Ah ben moi, je paye mes impôts en France.
Vous trouvez pas que
contrairement
c'est...
à ce qui se réclame beaucoup
on
de patriotes
au comité central.
Et qui ne paye pas
on laisse
en
parler son interlocuteur.
Oui, oui, bien sûr. Allez-y.
Bon. C'est pas une humiliation pour la France. Regardez comment nous traite Jeff Bezos. Comment nous traitent les grands patrons de l'IA américains. Tous ces gens qui règnent sur le monde aujourd'hui, Elon Musk, etc. Vous avez pas l'impression qu'on est un tout petit peu déclassé quand ces gens nous prennent pour un village de vacances? Vous trouvez pas qu'on est un tout petit peu ridicule quand ces gens ne nous consultent pas pour quoi que ce soit? Il n'y a pas une décision d'ampleur mondiale sur laquelle aujourd'hui la France a voix au chapitre. On est devenu le Club Med pour ces gens. C'est pas la honte, ça, quand même, pour la France? Pour le pays de Napoléon, de Louis XIV, de De Gaulle?
Elle aura fini sa pirade.
Posez-vous la question, c'est tout.
Répondez aux camarades consignés.
Alors, je ne partage pas le pessimisme.
Moi, je trouve que c'est humiliant pour les
C'est-à-dire, allez, nous sommes déclassés, tout le monde nous roule dessus, blablabla.
Vérité
et on
pure.
Va, et on ne peut plus rien faire. Mais arrêtez.
Vérité
on est
pure.
La septième puissance économique du monde.
Pas du
nous
tout.
Sommes la France.
En PIB, on ne cesse de dégringoler.
Nous sommes sur les cinq continents. Nous sommes une puissance maritime. Nous avons des entreprises qui fonctionnent beaucoup.
Ah, bah finalement, elles sont bien les entreprises du CAC 40. Alors finalement, là, vous les citez, là.
Mais nous avons des entreprises qui fonctionnent. Ah. Et du savoir-faire des travailleurs et des travailleuses. Et du savoir-faire des travailleurs et des travailleuses. Bref, arrêtons ce pessimisme ambiant. Vous dites patriote, mais tous les jours, en fait, vous êtes là, oh, la France, ça va pas, ça va pas. Je ne partage pas ce pessimisme.
Merci, monsieur le sénateur.
On a fini. Ouais. Qu'on allait faire de la politique, mais on fait, bon, bref, on a fait.
Vous reviendrez.
Vous trouvez que la campagne a vraiment commencé, la campagne présidentielle?
Les gens me parlent pas de ça.
Voilà.
Moi, les gens me parlent de la clim. Et de la canicule. Et ils me parlent aujourd'hui du prix de l'énergie.
Du pouvoir d'achat.
Et ils me parlent de leur salaire et du pouvoir d'achat. Mmh. Voilà, tout le reste, c'est du blabla.
Vous allez au Sénat cet après-midi?
Non, puisque nous avons fini hier soir à 1h30. J'étais en séance.
Déjà?
Nous avons fini à 1h30.
Et vous reprenez quand?
En Bermuda?
Vous savez, quand on est sénateur, il y a d'abord le travail en commission. Il y a le travail en hémicycle et puis il y a le travail sur le terrain.
Et vous,
donc cet après-midi, je serai auprès
des
élus.
Il y a des sénatoriales en septembre, octobre?
En septembre, mais moi je suis pas concerné. Je serai en 2029. D'accord. En Île-de-France. Tout le monde sera réélu en 2029.
Merci, monsieur le sénateur.
Vous avez encore le temps, mais m'invitez pas dans 3 ans.
Merci.
Parfait.
Et on vous réinvitera.
Avec plaisir.
Et vous reviendrez.
Je sais pas.
Si, avec plaisir. Vous l'avez.
Vous n'avez pas été victime d'une purge envoyée au goulag.
Merci. Parfait.